France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur le logement, sujet majeur en France et pourtant mineur dans la campagne présidentielle. Si les candidats ont bien planché devant la Fondation Abbé Pierre il y a quelques semaines, si des mesures ont été mises sur la table, par exemple sur le volet social de cette question, le sujet n'est pas véritablement pris à bras le corps, alors que le mal logement, le prix de l'accès au logement, voire l'impossibilité de se loger, sont des réalités anciennes et préoccupantes dans notre pays. Sur ces différentes facettes du problème, intervenez, amis auditeurs d'Inter, jusqu'à 20h dans ce téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le 01 45 24 7000 pour le standard d'Inter. Bonsoir Martin.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. Voilà, donc moi je voulais apporter un petit témoignage par rapport à l'émission. Je vous explique ma situation. J'ai trouvé du travail dans une région dans laquelle je n'habite pas. Donc je dois déménager, donc je suis en recherche d'un logement. Aujourd'hui, j'ai des revenus qui ne me permettent pas d'accéder à des logements de type sociaux, loi Pinel, sur tous ces nouveaux types de logements. Et comme c'est un nouveau travail, je suis en période d'essai et je ne suis pas couvert par les garanties de loyer à payer. Donc aujourd'hui, je n'ai quasiment pas accès à des logements dans une zone qui est très tendue en termes de choix de logement. Voilà.
Vous êtes dans un angle mort en quelque sorte, c'est ça ?
Bah, tout à fait. Et on me dit qu'une fois que la période d'essai sera passée, ce sera facile. Mais pour passer cette période d'essai, il faut que je sois logé. Donc voilà.
Et comment vous faites en attendant ? Comment vous faites, Martin, en attendant ?
Eh ben aujourd'hui c'est la grande question. Donc il faut que je ne sais pas, je suis un peu bloqué. Donc j'espère trouver une solution et que peut-être un propriétaire prenne entre guillemets le risque, si on peut appeler ça un risque, ça fait 10 ans que je paye un loyer et que je n'ai jamais manqué une de mes mensualités pour qu'il puisse me loger, que je trouve enfin un logement.
Et dites-nous dans quelle ville vous cherchez au cas où un propriétaire appelle au standard d'Inter.
Du côté de Bordeaux.
Du côté de Bordeaux. Merci Martin pour cette question d'ouverture pour le téléphone sonne. Pour vous répondre, Christophe Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Pierre Madec, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, spécialiste donc de cette question et de l'économie du logement. Qui veut répondre au témoignage de Martin ? Christophe Robert.
Oui, c'est vraiment un sujet majeur parce qu'on voit que la question du logement, elle est pas isolée du reste et qu'il y a un lien très fort avec la question de l'emploi. Et on perçoit bien aujourd'hui que les difficultés d'accès au logement liées soit à la pénurie dans certains territoires, soit à la cherté dans les mêmes territoires ou dans d'autres territoires, fait qu'un certain nombre de personnes, par exemple, refusent la mobilité professionnelle. On nous demande de la flexibilité dans le domaine de l'emploi, mais l'accès au logement, la mobilité dans le logement est très difficile. Donc il y a quelque chose qui coince. Et une étude du MEDEF montre par exemple que des entreprises rencontrent des difficultés dans certains territoires pour embaucher faute de solutions de logement et que des salariés qui pourraient être en mobilité ne le font pas parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont s'attaquer à un marché très très cher. Et on voit des entreprises qui commencent à, par exemple, pendant la période d'essai, ça rejoint la situation de Martin, fournir des logements au moins le temps de la période d'essai pour le temps que la personne puisse se positionner sur le marché. Donc c'est vraiment des enjeux qui sont très très liés emploi-logement.
Et là on voit quelqu'un qui paye un loyer, nous disait Martin, depuis 10 ans, qui a un travail, qui est certes en période d'essai, et qui ne trouve pas ni dans les aides, ni sur le marché matière à se loger. Pierre Madec.
Il y a, sur le marché du logement, on y reviendra peut-être tout à l'heure en parlant de la fiscalité ou de l'encadrement des loyers, il y a une vraie prime au ménage qui occupe un logement. Il y a pas une la mobilité est très compliquée parce que de fait sur le marché locatif privé par exemple, il y a des écarts de loyers qui sont très importants entre les gens qui sont là depuis très longtemps et les gens qui arrivent sur le marché. Donc c'est en gros insider versus outsider. Il y a une prime à l'immobilité sur le marché, c'est vrai sur le marché locatif, c'est vrai quand vous êtes sur le parc social pour bouger dans le parc privé ou accéder à la propriété, il y a un surcoût qui est très important. Et ça, c'est un vrai problème. L'encadrement des loyers en zone tendue, par exemple, avait pour objectif, en partie, d'homogénéiser les loyers et de réduire un peu cette prime.
Avec quel succès ?
Avec un succès, je pense que Christophe Robert sera d'accord avec moi là-dessus, qui est notable, qui a encore relativement, on n'a pas forcément le recul nécessaire à l'heure actuelle pour mesurer correctement les effets. Mais ce qu'on voit par exemple à Paris, c'est qu'on n'a jamais eu des loyers qui ont aussi peu augmenté que depuis l'encadrement des loyers. Et justement, cet écart dont on parlait entre les ménages qui sont là depuis très longtemps et ceux qui arrivent a tendance à se réduire. Il est encore de 40% aujourd'hui, mais il a tendance à se réduire.
Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Oui, bonjour. Voilà, je vous remercie de prendre ma question. Voilà, j'ai ma nièce et mon neveu qui cherchent un appartement dans la région parisienne. Ils ont des bons salaires, à peu près 3000 euros chacun par mois. Et les agences immobilières, ne serait-ce que pour leur accorder des visites, leur demandent des cautionnaires et demandent une somme de documents aux cautionnaires qui nous a paru assez importante, demande bien sûr les trois dernières fiches de salaire, mais les avis d'imposition foncier, les pièces d'identité, les RIB, jusqu'à une copie des contrats de travail. Je trouve ça complètement fou. Et en plus, si vous ne leur fournissez pas ce genre de documents, bah, vous ne pouvez même pas aller visiter un appartement. Est-ce que c'est normal ? On a vraiment l'impression que les propriétaires et les bailleurs sont les rois du monde et qu'ils font absolument ce qu'ils veulent.
Merci Dominique pour cette question. La parole en studio ici à France Inter, Christophe Robert. Est-ce normal, est-ce légal déjà de demander autant de documents ?
Alors non, la liste a été redéfinie. Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur Légifrance, pour voir ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. Effectivement, on voit bien qu'on est face à une situation très difficile et ça me permet quand même de dire, parce que les salaires dont vous parlez de votre neveu ou de votre nièce, on voit bien que c'est pas que les pauvres ou que les très modestes. Vous vous rendez compte ? 3000 euros. Le SMIC est à 1100 euros net. Donc la crise du logement dans les secteurs tendus, et là on parle de la région parisienne, elle affecte pas simplement les plus pauvres, pas simplement ceux dont s'occupe la Fondation Abbé Pierre grâce aux donateurs, c'est-à-dire d'apporter des réponses pour les plus pauvres d'entre nous. Non, elle touche aujourd'hui les jeunes, donc on vient d'en parler, créant une situation d'infantilisation. Vous vous rendez compte ? Vous avez un boulot, vous avez 3000 euros par mois et il faut aller demander à papa d'être caution, à maman d'être ceci et fournir 40 000 documents. Donc, on est dans une situation de déséquilibre entre l'offre et la demande, en région parisienne par exemple, mais c'est vrai aussi à Bordeaux, c'est vrai aussi à Marseille, à Lyon, qui fait que effectivement, il y a une tentation de tout pouvoir, parfois, sur le marché du logement. Ça doit être régulé. Franchement, c'est régulé. Alors, la loi Allure a régulé, en définissant une liste qu'on ne peut pas contourner, normalement. Il faut effectivement se poser. Sauf que, on est un peu otage, parce que comme le dit votre interlocuteur, si vous dites, moi je sais que la loi Allure me permet de vous dire que je ne dois pas vous donner tel bien, je vais dire, écoutez, il y en a 100 au portillon. Donc, ça rejoint la question de l'équilibre entre l'offre et la demande, la capacité à produire massivement du logement là où il en manque, c'est pas vrai en zone rurale, c'est pas vrai dans certaines zones périurbaines, mais dans les secteurs très sollicités parce qu'il y a de l'emploi, notamment.
Pierre Madec.
Non, mais évidemment, le déséquilibre vient d'un problème entre l'offre et la demande. C'est très compliqué de produire des logements abordables en zone tendue du fait du coût du foncier. On a parlé il y a quelques jours de l'expérimentation qui pouvait avoir lieu à Lille sur le fait de retirer le prix du foncier, en gros, du prix du logement et payer uniquement les murs et pas le foncier. C'est des expériences qui sont mises en place, qui joue pas en fait véritablement sur les prix, parce qu'il contourne un peu le problème. On dit le foncier est cher, donc du coup on va pas vendre le foncier, on va juste vendre le bâti, ça va coûter moins cher. Il faut s'attaquer aussi à pourquoi le foncier est cher, comment on fait pour libérer massivement du foncier et construire des logements. C'est un vrai sujet. L'offre et la demande, on nous a parlé pendant la dernière campagne présidentielle du fameux objectif de 500 000 logements. On a eu aujourd'hui ou hier les chiffres de construction, des permis de construire, des mises en chantier qui sont très bons. C'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Il faut voir qu'actuellement en France, on produit certes du logement, mais on ne le produit pas aux bons endroits et on ne le produit pas pour les bonnes personnes.
J'aimerais vous livrer ce témoignage de Leïla, assorti d'une question par courrier électronique. Je suis hébergée avec mes deux filles chez ma mère dans un appartement de 55 mètres carrés. Je suis enseignante à Paris. Mon salaire ne me permet pas de louer un logement proche de mon lieu de travail. Que fait l'État pour loger ses agents ? Ou qu'attend l'État pour augmenter les salaires dans les grandes villes où le prix du logement est inabordable ? Merci. La parole à Christophe Robert.
D'abord dire que le phénomène d'hébergement chez des tiers est un phénomène qui s'accroît.
Là, c'est sur grand-mère, mère et
complètement,
fille.
Complètement. Et c'est-à-dire qu'en fait, on voit que c'est un amortisseur de crise. Cet amortisseur de crise, a priori, il est satisfaisant parce que c'est la solidarité familiale qui s'exprime. Et tant mieux pour ceux qui ont la chance. Mais ça veut dire que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir cette solidarité familiale, ils sont livrés à eux-mêmes. Il y a un risque de privatisation de la solidarité. Et on le voit très fortement à travers la montée en puissance du phénomène d'hébergement chez les tiers. Cette Leïla, elle pourrait par exemple faire valoir le droit au logement opposable. Déjà du point de vue du droit, parce qu'elle est hébergée chez des tiers et qu'elle relève de ce droit.
Comment on fait pour le fameux DALO ?
Oui, dont on fête les 10 ans dimanche prochain. Et j'invite à une mobilisation très forte de toutes les associations et les citoyens mobilisés autour de cette question dimanche.
Comment on fait valoir ce droit ?
Alors, ce droit, en fait, il va falloir aller devant une commission de médiation qui va étudier votre dossier. Donc, ça veut dire, d'abord, il faut avoir fait une demande de logement social. Ensuite, il faut faire valoir ce droit, donc en allant auprès d'un travailleur social, une travailleuse sociale, pour dire, voilà, je suis dans cette situation, je dois relever du droit prioritaire. Et donc, je vais... Normalement, l'État a obligation, si on est reconnu prioritaire, de vous loger dans un logement social qui sera sans doute plus adapté que le marché... pour cette personne qui s'appelle Leïla. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une situation où les gens se débrouillent comme ils peuvent, c'est le cas de Leïla, et là aussi, ça a un impact. C'est-à-dire que c'est pas qu'un problème de logement. C'est un impact sur les choix de la vie familiale. On se met en couple, on se met pas en couple. On choisit de faire un enfant ou pas. On est infantilisé ou pas. Vraiment, je pense que pour qu'on arrive à faire que cette élection présidentielle et que les acteurs publics se mobilisent vraiment sur la question du logement, il faut mesurer au-delà du logement tous les impacts que ça a sur la société. La ségrégation territoriale, les problèmes de santé, les problèmes familiaux, les problèmes d'emploi, on l'a dit tout à l'heure. C'est seulement à ces conditions-là qu'on arrivera à resituer cette question du logement à sa juste place. Et on en est loin aujourd'hui.
Voilà, alors cette prise de question de tous les problèmes transversaux liés au logement vous semblent-elles arriver au cours de cette campagne ou il faudra attendre la suivante, Christophe Robert ?
Franchement, on n'y est pas. D'abord, on ne parle pas beaucoup de logement, loin en tout cas de ce qu'il faudrait. Ensuite, on a du mal à faire dépasser des registres purement techniques. Alors voilà, des objectifs, telle amélioration législative, telle orientation... Franchement, si on voulait bien ramener à ce que vivent les gens, ramener à la condition humaine, ramener à ce que vivent les enfants, ce que vivent les jeunes, ce que vivent les couples, ce que vivent les familles, ce que vivent les migrants, etc. Partir de ça pour s'interroger sur ce qu'il faut faire comme politique et pas simplement l'enfermer dans une question technique, et ça, on n'y arrive pas. Je comprends pas, nous ne comprenons pas la Fondation Abbé Pierre que nous n'arrivons pas à cela. Alors, dès qu'on montre une situation de mal logement, et on voit quelqu'un qui bosse et qui trouve pas de quoi se loger, ou qui est logé à 2 heures de chez lui, ou etc. On dit, mais c'est pas possible. Ah, mais il est sans domicile fixe et il travaille. Les gens se disent, c'est pas possible, pas en France. Eh bien si, les 4 millions de mal logés que compte notre pays, il y a beaucoup de situations de ce type. Donc si vous voulez, il y a un problème de partir de ce que vivent les gens, de reconnaître la situation des personnes qui souvent souffrent en silence. Et c'est à mon sens, à notre sens, à partir de là qu'on va pouvoir créer de vraies politiques. Et on n'y est pas.
Pierre Madec.
Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais en fait la question du logement est absente des débats parce que on est quand même, malgré le fait qu'on soit là pour en parler, on est quand même sur des situations qui, selon la classe politique, restent marginales.
4 millions, vient de dire Christophe Robert.
De mal logés.
Quand on regarde les statistiques et qu'on fait ça en comparaison européenne sur la qualité du parc de logement en France, on va avoir plein d'acteurs qui vont venir nous dire, mais regardez, en fait, notre parc, nos taux d'effort sont, c'est-à-dire la part du revenu qui va dans le loyer, les taux d'effort sont plutôt plus bas, la qualité du parc est plutôt meilleure. J'étais au rapport de la Fondation, à la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Un candidat ou sa représentante, que je ne citerai pas, a dit qu'on ne parlait pas de logement, parce qu'en fait, quand on interroge les Français, 90% des Français sont satisfaits de leurs conditions de logement. Donc voilà pourquoi on n'en parle pas. Évidemment que quand on voit des situations, quand on lit le rapport de la Fondation Abbé Pierre, on va avoir des acteurs politiques qui vont se dire « Ah ben, il faut agir ». Donc du coup, on va agiter le chiffon des 500 000 logements, des 150 000 logements sociaux financés. Il faut voir qu'on est à 80 000. Hein. On est, donc Là, cette année, on a 80 000 logements sociaux de plus que l'année d'avant. 80 000 compte tenu de la demande en logement social. On voit bien, pour répondre à la question de l'auditrice, le problème, il vient de là. Il vient pas... Oui, dans la théorie, elle peut faire appel au DALO, elle peut être relogée, mais en fait, si elle est relogée, elle va prendre la place de quelqu'un qui aurait aussi sa place dans le logement social. Ce qu'il faut faire, c'est produire plus de logements abordables.
Alors François, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vouliez intervenir, je crois, sur le logement social.
Oui, parce qu'il me semble qu'il y a un diagnostic que tout le monde connaît en ce qui concerne le logement social, c'est que la mobilité est insuffisante, c'est-à-dire que les gens ils ont beaucoup de mal à avoir un logement, mais une fois qu'ils l'ont, ils y restent, quelle que soit l'évolution de leur revenu. La Cour des comptes, la semaine dernière, a fait un rapport dans lequel il disait que les plafonds de pour les HLM, il y avait des deux tiers des Français qui étaient en dessous de ces plafonds. Donc la Cour des comptes propose de baisser des plafonds, c'est-à-dire en fait de faire un peu sortir du parc HLM les gens qui ont les moyens d'aller ailleurs. Tout le monde le sait, les économistes de droite comme de gauche sont au courant de ce problème, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Pourquoi est-ce que les politiques ne prennent pas le problème à bras-le-corps? Parce qu'évidemment, c'est impopulaire, mais en faisant par exemple une augmentation de 10% par an des loyers des gens qui sont au-dessus des plafonds, on les ferait bouger pour laisser la place à ceux qui sont plus diminués.
Merci François pour cette intervention. Christophe Robert vous répond.
Alors, le rapport de la Cour des comptes, effectivement, propose cela. Qu'est-ce qui se passe? On a 4,5 millions de logements sociaux en France. Le problème, c'est qu'on peut pas avoir une mesure qui soit généralisée sur tout le logement social. Ce qui est pas vrai, peut-être dans d'autres pays. Si on dit, on réserve le logement social aux plus pauvres, compte tenu de l'implantation de nos logements sociaux qui sont beaucoup historiquement dans les quartiers populaires en périphérie, on crée un effet ghetto accentué. Donc, si on regarde cette dimension-là,
qui existe déjà un peu.
Qui existe déjà beaucoup, on est bien d'accord, mais on renforce le phénomène de spécialisation spatiale, de ghettoisation. Donc il faut discuter de quelle partie du parc nous parlons. Évidemment, si on abaisse dans Paris, dans Bordeaux centre-ville, dans Lyon centre-ville, les plafonds, pourquoi pas? Ceci dit, il existe déjà des mesures. Quelqu'un qui dépasse les plafonds va payer un surloyer. Et s'il les dépasse de beaucoup, il va devoir bouger, il va devoir quitter. Donc en fait, on a déjà mis une entorse au droit, ce qu'on appelle au droit au maintien dans les lieux. C'est déjà existant, donc on peut baisser un petit peu, on peut augmenter encore le surloyer, on peut baisser un petit peu le plafond, mais attention à ce que l'on fait. Deuxième élément, beaucoup de personnes qui sont dans le logement social sont peut-être pas les plus pauvres, mais restent malgré tout modestes. La question, c'est où est-ce qu'ils peuvent se loger s'ils sont contraints de sortir du parc social? Et c'est là où on touche à d'autres sujets, comme l'encadrement des loyers, comme la production massive pour faire baisser les prix par un effet de régulation, d'autorégulation du marché. L'encadrement des loyers, c'est justement de dire, attention, il faut pas que ça soit que le logement social qui soit la solution pour tous les ménages en France. Et quand on regarde les niveaux de ressources, dans beaucoup de villes, sincèrement, même quand vous bossez, le logement social est presque la seule solution.
Pierre Madec?
En fait, il y a différents problèmes qui ont été soulevés par ce rapport de la Cour des comptes. Il y a cette idée de plafond et il y a l'idée du bail limité. Actuellement, vous rentrez dans le logement social, c'est en effet, comme l'a dit Christophe, le droit au maintien dans les lieux. Là, l'idée, c'est de dire, bon, en fait, il y a un bail à durée déterminée, comme dans le privé, et votre situation est réévaluée dans des intervalles de temps réguliers. Moi, j'ai un problème sur le fond à faire porter toute le problème de la mixité sociale en France sur le parc social. Oui, en effet, on a un parc social en France qui est concentré dans les anciennes us, dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers pauvres. Et donc, l'idée, c'est de dire, du coup, on est obligé de laisser un peu des ménages qui sont certes modestes, mais qui sont moins modestes que ceux qui attendent et qui sont dans le parc privé. Et donc, on les laisse là pour faire de la mixité sociale. L'objectif, une fois de plus, c'est de construire plus. C'est de construire du logement privé dans les quartiers prioritaires. Il faut réussir à trouver des dispositifs, pas du Pinel, pas du COS, pas du des dispositifs qui fonctionnent pour investir dans les quartiers prioritaires et réussir à attirer des ménages qui ont plus de ressources. Mais compte tenu de la contrainte de production, une fois de plus, 80 000 logements seulement de plus.
Il en faudrait donc combien
social,
par an?
Il en faudrait, si vous voulez répondre à toute la demande, il en faudrait quelques millions. Mais hélas.
Donc on est très loin.
On est très loin à la fois de l'objectif de 150 000 qui est
sociaux.
Sociaux. Il y a une définition de ce qu'est un logement social qui elle-même est sujette à débat. Mais donc voilà, il y a un problème global qui est de dire, bah en fait, on n'arrive pas à faire baisser les prix dans le parc privé. Donc du coup, on fait de la mixité sociale dans le parc social. C'est une forme de renoncement, selon moi.
Oui, avec la question de l'accession avec la question de l'accession à la propriété aussi. C'est-à-dire que quand on vient de publier, enfin, dans le rapport de la Fondation, en tout cas de faire un zoom sur la question, on voit qu'aujourd'hui, les catégories modestes, sont moins facilement en accession à la propriété qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Hein. Ils sont moitié moins, alors que parmi le haut du panier, quand on regarde les ressources des ménages, ils le sont deux fois plus. Donc en fait, il s'est passé aussi quelque chose, c'est que l'accession à la propriété s'est réduite pour les catégories modestes. Là aussi, ça concerne la question de la mobilité. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mobilité quand, on va dire il y a 30 ans, une partie des ménages qui rentraient dans le logement social finissaient par prolonger leur parcours résidentiel, comme on dit un peu pompeusement, pour aller vers l'accession à la propriété, qui est quand même un souhait partagé par de nombreux ménages et qui est légitime pour se constituer un pécule, pour après la retraite, d'autant qu'il y a des inquiétudes sur la retraite, donc on peut comprendre cela. Et du coup, la cherté du coût du logement, les prix qui ont doublé en 10 ans en France entière, hein, doublé le prix de l'immobilier, les prix du foncier, de la construction, et la fragilisation des ressources des ménages, la précarisation des ressources, même de ceux qui ont un boulot, eh bien, fait que beaucoup de ménages ne peuvent pas accéder à la propriété. Donc, c'est bien toutes ces composantes qu'il faut intégrer. Le parc locatif privé, le parc social, la question de l'accession à la propriété dans de bonnes conditions, c'est-à-dire une accession sociale sécurisée. C'est plutôt comme ça que de dire, effectivement, c'est de la responsabilité du logement social, d'accueillir les pauvres, de faire de la mixité, de se débrouiller pour se débarrasser de ceux qui ont des revenus un peu élevés. C'est quand même une insuffisance de politique publique qui est pointée dans ce qu'on est en train de dire.
La parole à Moïna. Bonsoir.
Bonsoir. Merci pour votre émission.
Merci à vous.
J'avais juste une question. En fait, j'ai déposé un dossier qui est passé devant deux commissions, je pense, deux fois. Et qui était refusé. Donc, je voulais juste savoir, c'est dû à quoi, parce que j'ai pas de réponse, sachant que j'alterne, en fait, c'est que des CDD, donc des périodes de chômage.
Et c'était pour une demande, Moïna, de logement social.
Exactement, oui, tout à fait.
Et on ne vous a jamais notifié les raisons du refus?
Non, jamais, en fait. Donc, je pense même trois fois, c'est la troisième fois que je le dépose. Et du coup, moi, j'ai plus envie, en fait, de le déposer, parce que je me dis, ça va être refusé, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, chaque fois je donne une fiche de paye, et la première fois je n'avais pas donné une fiche de paye, je ne travaillais pas, donc c'est vrai que c'est dû à ça.
Et donc vous dites que c'est peut-être les CDD, comme vous l'êtes souvent, en contrat à durée déterminée.
Oui, mais, tout à fait.
Merci Moïna pour... merci à vous, merci à vous pour votre témoignage, et on va essayer de répondre à votre question, Christophe Robert.
Difficile de pouvoir
répondre sans éléments. Oui, on n'a pas l'analyse du dossier.
Non, mais par contre, vraiment, ce que témoigne cette personne, j'ai oublié son
Moïna.
Prénom. Moïna. C'est clairement un besoin de transparence accrue, de lisibilité sur ce qui se passe sur le front du logement social. C'est pour ça que nous, on prône la cotation vraiment généralisée, c'est-à-dire qu'on puisse savoir, finalement, quand on dépose une demande de logement social, combien on a de points, en quelque sorte, pour qu'on sache où on se situe dans la liste des prioritaires, dans la liste en fonction du nombre d'attributions. Cette question que pose Moïna, elle dépend des territoires. Je pense que Moïna est en secteur tendu. Il y a des endroits où on dépose une demande de logement social et on trouve tout de suite. Il y a même 20% de logements vacants dans le logement social.
Nous appelle de Paris.
Voilà. Sur des territoires en déprise économique, en décroissance démographique, le logement social peine parfois même à trouver des locataires. À Paris, ça va être 9 ans en moyenne, donc je suis pas étonné. Mais néanmoins, même si on n'a pas suffisamment d'offres, hein, 1,8 million de demandeurs de logements sociaux en France aujourd'hui, 500 000 attributions par an, donc il y a un gap très important, il faut au moins que les gens sachent. Ça éviterait les suspicions sur des logiques clientélistes, etc. Donc cette idée de la cotation, à notre sens, elle est bonne. La location active aussi, que certains commencent à déployer dans certains territoires, je pense à Grenoble, c'est l'idée de dire, voilà, quand il y a des logements sociaux qui se libèrent, il y a des bailleurs sociaux qui sont regroupés et qui les mettent lisibles sur Internet, et on se positionne sur ce logement, on dit, moi, celui-là, il m'intéresserait bien. Ça ne veut pas dire qu'on l'a au bout, mais ça permet d'être actif dans cette recherche, plutôt que de, j'ai envoyé mon dossier comme Moïna, je ne sais pas pourquoi, ça fait trois fois qu'on me refuse, on ne m'explique pas pourquoi, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Mais voilà, donc au moins, pour que ça soit plus acceptable.
Pierre Madec.
On en revient une fois de plus au problème de l'offre. évidemment. Sur Paris, il faut savoir qu'il y a des efforts qui sont faits. C'est très compliqué de produire des logements neufs à Paris et donc d'augmenter le parc social à base de logements neufs.
C'est une petite ville, hein, Paris.
Voilà, c'est une petite ville. Mais du coup, il y a un problème qu'il faut aussi soulever, c'est que Paris affiche une production, un financement de logement social qui est en fait relativement important par rapport aux autres agglomérations françaises, par des mécanismes autres que la construction, qui sont des mécanismes de captation d'un certain nombre de logements dans le parc locatif privé.
Qui transforment en logements sociaux.
Mais donc, de fait, ces logements-là ne sont plus dans le parc locatif privé. Si on croit un tout petit peu à la loi de l'offre et de la demande, à force de réduire l'offre de logements dans le parc locatif privé, on a beau encadrer les loyers, normalement, on devrait pas réussir à faire baisser les prix. Donc, une fois de plus, on en revient à il faut produire, mais produire du neuf, enfin, c'est-à-dire produire des nouveaux logements. La simple transformation de logements locatifs privés en logements sociaux ne sont pas suffisants. Sur la cotation, c'est un avis que je partage et qui est partagé par beaucoup de monde, en effet. Plus de transparence, il y a plein de villes qui l'ont expérimenté, comme Rennes. Après, il faut faire attention à pas forcément non plus hiérarchiser les ménages modestes. On connaît les critères de cotation. C'est difficile de juger en nombre de points qu'est-ce qui est le plus prioritaire entre une famille monoparentale avec trois enfants et quelqu'un qui est tout seul à la rue. Enfin, je veux dire, il faut aussi que le système de cotation soit lui transparent et peut-être discuté avec les acteurs au niveau local.
Juste un point quand même, parce que effectivement, la transformation de parc privé en parc social est une bonne formule quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, elle ne libère pas tout de suite des logements, mais elle les fait rentrer durablement pour 50 ans, 60 ans, 70 ans dans le parc public qui va être modéré en termes de loyer.
C'est une bien meilleure formule que les incitations à l'investissement locatif dans le parc privé, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne formule? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer de produire au maximum du neuf?
Ah si, il faut faire les deux. Mais je veux dire, si on n'a pas beaucoup de foncier, c'est quand même satisfaisant d'avoir une mobilisation. Alors c'est vrai que ça libère pas tout de suite des logements parce que il y a quelqu'un dedans, donc etc. Mais voilà, je pense qu'il faut faire feu de tout bois quand on est face à une situation comme celle de Paris.
Mais on réduit l'offre locative privée. On regarde à Paris les chiffres de l'offre locative privée. Elle a tendance à Airbnb elle a tendance.
Alors
à
il y a des questions là-dessus justement, mais on va donner la parole d'abord à Jocelyne de Nantes. Bonsoir Jocelyne, vous êtes infirmière.
Oui, alors bonsoir France Inter, merci pour la qualité de vos émissions et de prendre mon appel. Donc voilà, moi je suis infirmière, j'habite un logement social depuis 30 ans, j'élève seule mes deux grands enfants qui sont encore en études, donc je n'ai pas de gros moyens. Et en fait, mon bailleur ne prend pas en compte la précarité énergétique, donc je mets précarité entre guillemets parce que je ne suis quand même pas à la rue, j'aime bien mon appartement, mes voisins, tout ça, j'habite dans le centre-ville, mais quand il fait 37 à Nantes l'été, ben, il fait 33 dans mon appartement. Et quand c'est l'hiver, eh bien en fait, j'ai beau chauffer dans les chambres, j'arrive à 14 maximum, quoi. Donc en fait, et mon bailleur ne fait rien. L'élu local m'a juste dit que j'avais un appartement en classe D, et puis bah voilà, tout le monde s'en fiche. Donc comment est-ce que je peux faire pression pour que mon bailleur puisse envisager quand même de faire de l'isolation, de la réhabilitation, et que je jette pas ma facture de gaz par la fenêtre.
Parce que tout ça, notamment l'hiver, j'imagine, vous coûte extrêmement cher. C'est ça le sens de votre question, Jocelyne.
Voilà, exactement.
Donc une fois qu'on est dans un logement social et qu'on peut avoir des difficultés à payer les factures de chauffage et de gaz, qu'est-ce qu'on fait? Merci Jocelyne pour cette question. Christophe Robert.
Ça c'est un problème majeur, la précarité énergétique. C'est vrai dans le parc locatif privé, c'est vrai de la part de propriétaires occupants qui rencontrent des difficultés. Nous avec notre programme par exemple SOS Todi, on intervient en milieu rural dans des conditions de logement catastrophiques de gens qui sont propriétaires depuis 30 ans et qui n'ont pas pu rénover leur logement et qui vivent vraiment... Alors soit ils chauffent l'extérieur, soit et finalement c'est ce qu'ils font, ils se mettent dans une petite pièce et ils mettent un petit chauffe-eau et puis un réchaud et puis ils se limitent à cela. Donc c'est pas des bonnes conditions. Alors globalement, dans ce quinquennat, il y a eu un vrai effort avec la loi de transition énergétique et des gros objectifs de rénovation thermique. 500 000 logements sont attendus par an en rénovation thermique, dont 250 000 pour les plus modestes. Ça, c'est très ambitieux. Alors, aujourd'hui, on n'y est pas, hein, c'est depuis le 1er janvier 2017. Mais en tout cas, c'est inscrit dans la loi et c'est assez ambitieux. Les bailleurs sociaux, quand même, sont sur un rythme de rénovation thermique qui est plutôt positif. Ils sont à peu près à 100 000 par an. Là où ça pêche, c'est dans le parc privé où il y a encore des efforts à faire. On est à 50 000 par an, il faudrait passer à vraiment une multiplication importante. Par contre, pour pour Jocelyne, ouais, c'est un enjeu vraiment très important, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire que le bailleur fasse une opération de rénovation thermique. Donc ça peut pas être juste un locataire, ça veut dire vraiment qu'il faut se mobiliser avec le locataire pour faire valoir. Après, il peut y avoir des aides au paiement. Donc il y a le chèque énergie qui est actuellement expérimenté, qui va remplacer les tarifs sociaux de l'énergie, qui est une aide pour des personnes qui n'arrivent pas à se chauffer convenablement. Mais la bonne solution, c'est évidemment la rénovation thermique du logement. Donc ça veut dire une mobilisation avec des associations de locataires, par exemple, pour pousser à cette rénovation vis-à-vis du bailleur social.
Je donne la parole à Pierre Madec dans quelques instants, mais Lucie nous attend depuis 25 minutes au standard de France Inter. Mille excuses pour ce retard, Lucie. Et bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Demorand, et bonsoir à vos intervenants. Moi, j'entendais parler là vos intervenants de construire du neuf. Eh ben, si je vais acheter, j'achèterai jamais dans du neuf, vu les malfaçons qu'on constate partout. Enfin, c'est pas pour ça que j'appelle. Moi, je suis copropriétaire. J'ai acheté il y a 7 ans dans un quartier un petit peu défavorisé, mais que j'aime beaucoup. À Lyon. Ce qui se passe, c'est que on a fait des tas de travaux, je me plais dans mon appartement, j'ai les voisins, enfin bref, tout va bien, sauf que les charges sont énormes, les impôts fonciers sont énormes, j'ai un crédit sur le dos, j'ai été infirmière, je suis à la retraite, donc évidemment, mon salaire, si je puis parler ainsi, a baissé. Je suis obligée de louer des chambres à des étudiants pour vivre, hein, pour pouvoir me payer des loisirs et des choses comme ça. Mais on nous a vendu ces appartements comme étant aux normes au niveau des ascenseurs. Ah, ils sont aux normes, ça c'est certain, mais les ascenseurs sont à changer, déjà. Donc j'ai découvert que les ascenseurs peuvent être aux normes, mais qu'il faut les changer. Donc ça, ça va être un coup...
Et vous regrettez d'avoir acheté, Lucie ?
Je regrette vraiment jamais, ras-le-bol, parce que c'est pas la première fois que j'ai acheté. J'ai encore 45 000 euros à payer pour mon crédit, mais je vais être obligée de vendre, sachant que je perdrai des dizaines de milliers d'euros en vendant. Mais jamais, ras-le-bol, très franchement, ras-le-bol. Voilà, je vais partir en location, je ne vais plus acheter... Voilà, et on nous considère comme des nantis, parce qu'on est copropriétaires, on n'est pas des nantis. Il y en a qui sont sûrement des nantis, mais pas nous. Je veux dire, moi j'ai que ce bien, je vous dis, je loue des chambres à des étudiants, ça se passe souvent très bien, parfois ça se passe beaucoup moins bien, mais bon, il arrive un moment où il faut arrêter, quoi.
Merci Lucie, merci beaucoup pour ce témoignage, encore mille excuses pour le temps passé au standard d'Inter. Pierre Madec.
Alors, quand je propose de construire plus, c'est construire plus des logements aux normes et sans malfaçons. On s'entend, je dis pas qu'il faut construire plus de taudis neufs. Sur le problème soulevé, alors c'est très compliqué de parler de situation personnelle, mais il y a un problème. On a parlé de la, Lucie a parlé de la taxe foncière notamment et des impôts locaux. On a un problème sur la fiscalité immobilière en France. Ce problème, il est lié aussi avec des problèmes de mobilité justement, parce qu'on a une fiscalité immobilière qui est relativement lourde par rapport à nos voisins européens et est surtout assez injuste. La taxe foncière, on le sait, on le répète souvent, est assise sur ce qu'on appelle des valeurs locatives qui ont été estimées il y a très 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 longtemps. Tout le monde est un peu traité de la même façon, que vous soyez accédant, non accédant, pauvre ou riche. Et donc ça, c'est un vrai problème. Il y a certains candidats pendant la présidentielle là, qui proposent une refonte de cette taxe foncière qui pèse lourd dans le budget des ménages les plus modestes. Donc c'est une idée, rendre cette taxe foncière plus progressive, plus juste. Ça peut répondre en partie à ces situations.
Un mot, Christophe Robert, oui, puis le standard.
Je partage l'analyse de Pierre Madec là-dessus. Il y a vraiment la révision des valeurs foncières et puis donc penser l'équité, penser la solidarité autour de cela, c'est très important. Juste, vraiment, le témoignage de Lucie est poignant parce que d'abord, on s'aperçoit que l'accession à la propriété, pas forcément la solution, toujours. On n'évalue pas toujours les coûts induits, on peut avoir des coups durs qui font que c'est difficile et on voit une augmentation dans l'étude de l'INSEE qui vient de publier sur l'enquête nationale logement 2013.
Plus 15 points pour les ménages.
Plus 15 points ou 11 sur, plus 15 points peut-être sur les impayés de ceux qui remboursent leur emprunt en accession. Donc il y a quelque chose qui s'est passé où des gens finalement se sont tournés vers l'accession à la propriété pour différentes raisons. parfois subi. Et nous, on en connaît à la Fondation, qui viennent nous taper à la porte de la Fondation et qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer parce que, tout à l'heure, je parlais de l'hébergement chez les tiers comme une privatisation de la solidarité pour ceux qui ont la chance d'avoir la famille. Il y a aussi des personnes, c'est pas forcément le cas de Lucie, mais qui se tournent vers l'accession à la propriété parce qu'ils n'ont aucune autre solution. Et on le voit dans des copropriétés très dégradées. Quand vous n'avez pas trouvé de solution pendant un an, deux ans, vous avez vécu un peu à la rue, vous avez vécu chez des amis, un peu à l'hôtel, etc., hébergé chez des tiers, finalement vous avez envie d'avoir votre chez vous, et on accède à la propriété, et parfois c'est pire que mieux. Donc voilà, c'est, dans l'ensemble, l'accession à la propriété ne se passe pas comme ça, mais il faut faire très attention à ne pas s'engager dans une logique de privatisation de ce point de vue-là. Il y a besoin d'aider les personnes et c'est pas toujours bon cette accession, on le constate dans le cas présent.
Il faut juste savoir que Lucie est pas la seule du coup dans cette situation. Non, effet, dans l'étude de l'INSEE, si on prend les 25% des ménages les plus pauvres accédant à la propriété, ils ont un taux d'effort de 44%.
Donc ils dépensent énormément.
Eddy, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Mais je vous en prie. Bonjour à vous.
Allez-y, Eddy, on vous écoute.
Oui, voilà. Donc, je disais, donc on n'arrête pas de nous dire ici, faut construire, logements sociaux, etc. Faut pas construire. Il y en a trop. Parce que moi, je vois autour de moi, vous avez un tas de logements, un tas d'immeubles qui sont neufs, hein, qui ont été construits 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui sont vides en permanence. Par contre, les jeunes qui travaillent ici, ils peuvent pas avoir accès au logement, puisque tout ça, c'est vide.
Et ce sont des résidences secondaires, c'est ça ce que vous voulez dire, Eddy ?
Résidences secondaires, évidemment. Et voilà. En plus, quand on fait des résidences secondaires, on ne fait pas des logements, on fait des studios. C'est-à-dire que c'est juste pour venir passer 15 jours, 3 semaines.
Merci Eddy pour cette question. Effectivement, un certain nombre de logements existent, mais ne sont pas occupés ou juste très peu de temps. Eddy nous appelait de Saint-Raphaël. Robert.
D'accord, on est sur une zone touristique. Oui. Non, parce que là, c'est la question de la territorialisation de la politique du logement, c'est-à-dire de quoi avons-nous besoin pour tel ou tel territoire. Pierre Madec disait il faut construire, mais oui, il faut construire beaucoup dans les secteurs très tendus, parce que c'est ça qui va pouvoir détendre un petit peu et faire qu'on n'ait pas 100 candidats pour un logement avec les contraintes qu'on a entendues en début d'émission. Dans les zones frontalières, évidemment, il faut arriver à limiter le phénomène des résidences secondaires. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est deux choses. C'est construire, oui, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais pas n'importe quoi et pas n'importe où. Parce que on peut aussi dire qu'on construit beaucoup, par exemple, de bureaux aujourd'hui et de beaucoup de bureaux sont vides. Et donc consacrer le foncier, réserver le foncier à la production de logements à loyer accessible, logements sociaux, logements privés à vocation sociale, accession sociale à la propriété, mais surtout qu'on arrête d'avoir une politique, une vision nationale du problème. Il y a des endroits où, je vous le disais tout à l'heure, il y a de la vacance dans le logement social. On n'est pas soumis aux mêmes contraintes urbaines, à la même histoire du logement, aux mêmes demandes, aux mêmes besoins. Et j'allais dire, même dans des endroits où, a priori, il n'y aurait pas besoin de logement. En fait, il y a des besoins de rénovation de logement.
Pierre Madec.
En effet, on conclut. Il faut construire pas des logements. C'est pour ça que l'objectif de 500 000 est ridicule. Il faut savoir que sur ces 500 000, en 2014, il n'y avait que 60% de résidences principales. 60%, c'est-à-dire en moyenne historique, on est aux alentours de 80. Là, en fait, il y a 4 logements sur 10 qui ont été construits en 2014 qui n'étaient pas des résidences principales. Donc on se fixe des objectifs de 500 000, mais ça n'a aucun sens. Et en plus, on peut faire une politique du chiffre qui ne sert à rien. Typiquement, il y a un dispositif qui s'appelle le PTZ, qui est le prêt à taux zéro, qui est fait pour construire des logements pour les ménages modestes. Il y a 40% des PTZ qui ont été distribués le dernier trimestre, qui ont été en zone C, qui sont des zones complètement détendues où il y a pas de problème de logement. Donc, en effet, à Saint-Raphaël, il faut construire peut-être dans le centre-ville, peut-être pour des étudiants et non pas des résidences secondaires.
Merci à tous les deux. Pierre Madec, économiste à l'OFCE, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et merci à vous, amis auditeurs d'Inter. Vous étiez très nombreux au standard ce soir.